Marc Desgrandchamps est peintre. Les œuvres qu'il réalise montrent à quel point il est attaché, dans le cadre d'une représentation qui s'affirme comme telle, à restituer la présence des choses tout en signifiant dans le même temps au spectateur que ses perceptions ne sont pas absolument infaillibles. Ses toiles, tout comme ses dessins, sont traversées par une forte conscience du caractère fragmentaire et équivoque des perceptions. Les solutions visuelles qu'il invente pour traduire cela se sont sans cesse renouvelées depuis la fin des années 1980. Sachant la place essentielle qu'il donne à la lecture, on peut penser que les livres, au même titre que les films ou toute autre référence de l'histoire de l'art qui peuvent venir enrichir son univers visuel, ont une part de responsabilité dans le renouvellement de sa pratique. Il nous accueille chez lui, à Lyon, en compagnie de l'historien de l'art François-René Martin, justement pour évoquer son rapport à la lecture. Marc Desgrandchamps, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous faire part de la manière dont vos choix de lecture s'opèrent ? Donc, qu'est-ce que vous lisez ? Quels sont les genres littéraires qui vous attirent ? Et est-ce qu'une période particulière de l'histoire de la littérature aurait votre préférence ?
Oh bah les choix de lecture, ils sont, je dirais, sur la durée, hein, puisque je ne suis pas un jeune lecteur, hein, puisque maintenant j'ai une soixantaine d'années. Donc, entre ma manière de lire quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune ou plus loin dans les années, a pu varier. Et les centres d'intérêt également. Je pense que quand j'étais jeune, je lisais en majorité plus souvent des romans. Et avec le temps, je suis allé plus vers des choses qui tournaient autour de l'essai. L'essai, alors évidemment, toute la littérature, tout ce qui peut être du texte autour de l'histoire de l'art, mais également de l'esthétique, vers la philosophie, vers l'histoire également, l'histoire, pas seulement l'histoire de l'art, puisqu'on ne peut pas de toute façon déconnecter l'histoire de l'art de l'histoire en général. Ce sont évidemment des choses qui sont très reliées. Et puis aussi tout ce qui, globalement, ce qu'on appelle les sciences humaines. Voilà.
Est-ce que vous pourriez revenir également sur votre rapport à la lecture ? Comment est-ce que vous décririez ce rapport ? Et que ça soit une question un petit peu plus contextuelle, comment a-t-il évolué durant les trois confinements qu'on vient de traverser ?
Le rapport à la lecture, il est assez... Je ne suis pas toujours un lecteur très sérieux. C'est-à-dire que si un livre m'ennuie, je ne vais pas me forcer à le lire jusqu'au bout. Ou alors, je vais sauter des pages. J'avais été très sensible à... Évidemment, ça, bon, je ne suis pas très original en le citant, mais Roland Barthes et le plaisir du texte, quand il dit... Voilà, justement, il y a un plaisir de lecture qui consiste à sauter des pages. Et je suis assez sensible pendant très longtemps. J'étais... assez sensible à tout ce qui était lettres, donc épistolaires, tout ça, recueil de lettres, journaux, et tout ce que ces textes peuvent garder d'une époque, d'un état, d'une période. Et ça aussi, ça me ramène à Barthes et à ce qu'il dit à un moment donné, en parlant, je crois, du journal de Amiel, où il dit « il ferait mieux de nous parler du temps qu'il fait ». Que de ses considérations morales, le temps qu'il fait, le temps qu'il faisait ce jour-là sur le lac Léman aurait moins vieilli que ses considérations morales ou pseudo-philosophiques qui nous ennuient. Bon, voilà, ça c'est ce que dit Barthes. Après, moi, c'est pas un jugement sur Amiel que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Mais j'avais été assez frappé par cette remarque à la fois irrespectueuse irrespectueuse, je veux dire, assez. D'une certaine façon désinvolte, mais d'une désinvolture, je trouve, très juste. Par rapport à des choses qu'on néglige parfois ou qu'on méprise, mais que le texte, la littérature peuvent transporter avec eux, qui sont le phénomène de la notation et le phénomène du temps qui passe, en fait. Mais vu au travers de détails qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas, en fait. Parce que tel rayon de soleil à tel moment sur un objet, dans une pièce. Bon, après, Proust en a parlé aussi, hein, mais je veux dire, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'évocation, enfin de la, d'une espèce d'effet comme ça, de réalité de ce qui a été. Pour les, oui, alors par rapport aux lectures en période de confinement, ben c'est, non, je ne pense pas que ma manière de lire ait changé. Simplement, on avait peut-être un peu plus de temps pour lire. Je me suis concentré peut-être sur des ouvrages assez longs. Par exemple, comme, pour citer, pour donner un exemple précis, j'avais toujours remis le fait de lire un ouvrage historique qui est l'Histoire de la Révolution française par Jules Michelet. Qui est quand même un certain, enfin il y a plusieurs centaines de pages, c'est un gros pavé comme on dit, et ça a été l'occasion par exemple de commencer. D'ailleurs c'est une lecture que je n'ai toujours pas terminée, de prendre le temps de lire peut-être des ouvrages plus longs en termes de temps de lecture et de volume de pages qu'à l'habitude.
Pour entrer aussi peut-être un petit peu plus intimement dans votre univers de lecture et essayer de mieux cerner de quoi il se compose exactement, j'aurais souhaité vous demander quels sont les auteurs que vous avez le plus fréquentés.
C'est variable selon les périodes de ma vie, on va dire. Mais quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu. J'ai eu un auteur comme Modiano, Patrick Modiano. Il n'y avait pas que cet écrivain. J'ai lu beaucoup de science-fiction, alors que je n'en lis quasiment plus. Il y avait un auteur que j'aimais beaucoup qui s'appelle, je pense qu'il est mort, Clifford D. Simak, et avec un roman qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle Demain les chiens. Ou l'humanité future. Non, c'est même pas l'humanité future. Les chiens dans le futur essayent de se rappeler d'une créature mythique qui s'appelle l'homme et pour laquelle ils avaient apparemment beaucoup d'affection et dont ils n'ont des traces. Les seules traces qu'il leur reste de cette humanité apparemment disparue sont dans des mythes et légendes et des contes qu'ils se racontent. Qu'ils se comptent le soir justement. À la veillée. Et j'aimais beaucoup cette façon de... Voilà. Et après, le livre était toute une série de nouvelles qui racontaient comment on en était arrivé là, effectivement. Au fait que les chiens se posent la question de savoir si l'homme avait vraiment existé. Voilà. Et aussi, d'autres lectures de science-fiction que j'aimais, qui m'intéressaient... Enfin, d'autres thématiques de science-fiction qui m'intéressaient beaucoup étaient celles qui relevaient du voyage spatio-temporel. Donc différents espaces-temps et tout ce qu'on et notamment ce que ça implique parfois en termes d'absurdité, mais en même temps assez piquant pour l'imagination, les paradoxes temporels par exemple. Je me souviens d'un livre de Ward Moore qui s'appelait Autant n'emporte le temps, ça c'est la traduction française. Parce que c'est un livre américain, donc qui imagine un monde où les sudistes ont gagné. Et puis, à un moment donné, on invente une machine à remonter dans le temps, et donc un historien spécialiste de la guerre de sécession revient la veille de la bataille de Gettysburg, et sa présence inverse le cours des choses, c'est-à-dire que ce sont les nordistes qui gagnent. Et pas les sudistes. Voilà, bon, ce genre de choses m'intéressait beaucoup. Je termine également avec un livre d'un auteur qui s'appelle Waldrop. C'est un livre pas très connu, dont le titre d'ailleurs m'échappe, mais c'est ennuyeux. Histoire d'os, voilà, Histoire d'os, titre français, mais qui est également sur une thématique temporelle, et de paradoxes, ce type d'imbrication, ce type d'ouverture sur des possibles qui n'ont pas eu lieu, m'intéressait beaucoup. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'était jusqu'à une trentaine d'années à peu près, c'était vraiment des thématiques qui me stimulaient beaucoup. En termes d'auteur, plus tard, j'ai beaucoup lu Claude Simon parce que c'était un auteur dont je voilà, ce que j'avais pu lire de son œuvre me laissait supposer que bah voilà, je pouvais y trouver un intérêt, mais bon, je remettais un peu en même temps d'un auteur qui avait la réputation d'être difficile. Alors, c'est toujours la même chose, des fois on est un peu paresseux et on veut pas, bon. Mais j'ai, à un moment donné quand même, je me suis dit, il faudrait quand même que tu essayes de lire cet écrivain. Et j'ai démarré avec un roman qui s'appelle La bataille de Pharsale. Et après, j'ai quasiment lu toute son œuvre. Et là, j'ai vraiment retrouvé... Donc là, j'avais une quarantaine d'années quand j'ai lu Simon. Et je... Peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que moi, je me sentais très en... mon travail pictural, je le trouvais en résonance avec la manière dont Simon décrivait l'histoire et la réalité. C'est-à-dire cette manière totalement fragmentaire, enfin, la manière dont il arrive à restituer la perception fragmentaire du monde, qui est, je pense, quelque chose qui a beaucoup déterminé ma manière de peindre, et de représenter le monde.
Et peut-être pour rebondir sur la question de la science-fiction, est-ce que ça s'est accompagné parallèlement d'un intérêt pour ce genre au cinéma, par exemple ?
Oui, mais je ne suis pas... Bon, je suis comme tout le monde, hein. j'ai vu La Guerre des Étoiles, voilà, je me souviens d'ailleurs quand c'est sorti, quand j'avais... Premier film, je devais avoir 17 ans, donc l'épisode 1, qui est en fait l'épisode 4, ça m'avait beaucoup... À l'époque, c'était quand même un choc cinématographique. Bon, 2001, Odyssée de l'espace, c'est un film qui m'avait beaucoup aussi... impressionné, beaucoup, beaucoup marqué. Après, comme ça, j'essaye de me souvenir comme ça d'un film qui aurait pu être... Finalement, les thématiques temporelles, je ne les ai pas tellement retrouvées. Ça existe certainement au cinéma, mais ma culture cinématographique n'est pas assez étendue pour que, comme ça, à brûle pour point, j'ai un film que je pourrais citer comme film de science-fiction, que je pourrais citer comme étant quelque chose qui m'est vraiment... Ah si, il y a d'une certaine façon, je pense, « Je t'aime, je t'aime », film d'Alain René qui date de 1968 et qui est justement sur d'entrée dans la science-fiction d'Alain René à cette époque, puisque c'est l'histoire d'un voyage dans le temps, puisque le personnage doit revivre, on tente une expérience sur le personnage qui est volontaire pour qu'il revive une minute de son passé une année auparavant. Il y avait ça aussi dans La Jetée et de Chris Marker, avec cette plongée dans le passé du personnage et la manière dont les souvenirs du protagoniste se réaniment petit à petit sous l'influence de la machine.
Alors, à mon tour, je vais poser une question, mais en reprenant les choses sous un autre angle. Bon, je suis donc François-René Martin, je suis historien de l'art, mais la manière dont je peux considérer le rapport de Marc Desgrandchamps avec la littérature, c'est au départ un rapport, moi, que je pressens dans la discussion que j'ai depuis des années avec Marc Desgrandchamps. C'est-à-dire, je ne pars pas forcément d'emblée des œuvres pour me dire « tiens, il y a quelque chose de littéraire ». Ce qui, d'emblée, m'apparaît, c'est la présence de la littérature, mais on a également dit, Marc Desgrandchamps a parlé de l'histoire. Ce sont des thématiques qui sont présentes dans sa conversation, dans les échanges que nous avons, dans les discussions que nous pouvons avoir depuis des années. C'est quelque chose qui est véritablement important. Bon. Alors évidemment, toute la question pour un historien de l'art, après, ça c'est un deuxième temps, il y a les discussions amicales, il y a la bibliothèque de Marc Desgrandchamps, qui est faite de littérature, évidemment, mais d'histoire aussi, d'histoire de l'art, de philosophie, d'esthétique. On pourra évoquer aussi peut-être et le cinéma, mais aussi la musique rock. Bon, la question c'est de savoir quel effet ça fait dans les peintures de Marc Desgrandchamps. Bon. Sachant qu'il faut se méfier de l'idée qu'il y aurait peut-être un trajet qui serait simple, c'est-à-dire le trajet classique qui consiste à dire il y a un fragment dans un livre qui devient un sujet. C'est une chose qui, à mon sens, est peut-être plus diffuse, qui est vraiment importante et dont l'enjeu esthétique est considérable. C'est-à-dire que, précisément, ça n'aboutit pas à faire, je crois, une peinture qui serait une peinture littéraire. On peut plutôt imaginer quelque chose qui serait différent, c'est-à-dire une peinture qui se sert d'un matériau qui se trouve dans les livres et qui peut-être déjà d'emblée fait image ou fait tableau. En tout cas, c'est une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup qu'on puisse entendre Marc Desgrandchamps.
Oui, en fait, il ne s'agit pas de reprendre à un moment donné le thème d'un livre où il peut y avoir parfois des images qui surgissent à la lecture. Mais c'est plus, par exemple, quand je parlais de Claude Simon et de ses livres de l'influence qu'ils ont pu avoir sur mes tableaux. C'était plus dans la forme, dans la matière de l'écriture. C'est pas la représentation de la guerre, même si bon, il y a beaucoup de chevaux chez Claude Simon et moi, il y a beaucoup de chevaux dans mes tableaux. Mais il y avait des chevaux également avant que je lise Claude Simon. Mais c'est plus dans une façon de restituer le monde au travers d'une perception. Et la perception hachée, fragmentée, cassée, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir des objets, des figures, quasiment de la réalité dans laquelle on est plongé, dans laquelle on est jeté. Et c'est ça aussi que je trouvais très beau chez Claude Simon, c'est cette façon qu'il avait de ne pas avoir il ne donne pas et on n'est pas dans une réalité qui est surplombée. Il n'a pas un regard surplombant sur la réalité. On est au contraire dans quelque chose qui est de l'ordre de la confusion des sens et des images qui peut être celle que l'on ressent au quotidien dans nos vies.
Alors pour reprendre cette question là, ou ce qui permettrait de faire une sorte de traverse entre la littérature de Claude Simon et les peintures, il y a évidemment la notion de fragment. D'emblée, alors oui, effectivement, cette notion de fragment, elle est peut-être très importante et chez Claude Simon et peut-être plus largement dans le nouveau roman, mais c'est une question très très large aussi en littérature et au-delà de la littérature esthétique. Moi, je pense tout simplement à la notion de fragment chez les romantiques. Notamment chez des écrivains comme Novalis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, sachant que tu l'as dit avant, la question de la représentation fragmentaire du monde est essentielle dans ta peinture? Est-ce que ça s'est créé d'emblée ou est-ce qu'il y a eu d'autres références littéraires qui ont pu conduire à développer et faire mûrir cette idée du fragment?
Il est un fait que tu fais allusion au romantique, et c'est vrai que j'avais toujours à l'esprit, souvent, mais je crois que c'est une phrase de Schlegel sur les œuvres qui aujourd'hui, alors il le dit au XIXe siècle, mais justement, sont déjà des fragments. Au moment où elles apparaissent, sont déjà des fragments, c'est-à-dire. Mais c'était quelque chose d'assez éclairant, pour moi, dans la manière dont je pouvais travailler. Puisque dans l'écriture des autres, dans les textes, sans chercher directement une chose, un éclairage, mais je sais que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, d'avoir tombé parfois sur une phrase ou quelques mots assez lumineux qui, d'une certaine façon, me montre ce que je n'arrivais pas à formuler, me le montre beaucoup plus clairement, en fait, ce que je cherchais à faire. Voilà, comme une espèce d'éclairage assez violent et lumineux.
C'est ce que Sebald appelle la bibliomancie.
Oui, tout à fait. Oui. Ah ben Sebald, par exemple, est un auteur que j'ai beaucoup lu. C'est vrai que j'ai beaucoup lu dans les années 2000. que j'ai découvert d'ailleurs par un livre dont le titre était Vertige. Et déjà, rien que ce titre m'intriguait, parce que j'avais en plus des vertiges à l'époque. Donc, mais je ne l'ai pas acheté en pensant que c'était, c'était un livre médical. Mais en tout cas, c'était... Voilà. C'est des... Alors là, pour le coup, on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre du... Or, du fragment, certainement, aussi, et du fragment mémoriel, du fragment... Mais en même temps, qui fait ressurgir à la surface... chez un auteur de cet ordre, quelque chose d'énorme, quelque chose totalement enfoui. En l'occurrence, là, souvent, quand même, quelque chose qui tient au passé et à l'histoire du XXe siècle dans ses formes les plus tragiques.
Alors, si je continue continue à tirer des fils, hein, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui a déjà été abordé, mais qui est vraiment très important, et c'est aussi de la littérature. Quand il s'agit par exemple d'un auteur comme Michelet, on est à la fois en présence d'un historien et d'un écrivain, parce que c'est l'écriture de Michelet est quelque chose de proprement épique. Hein.
C'est la, très romantique.
Très romantique. C'est l'importance qu'a précisément l'histoire comme lecture, effectivement, dans ton imaginaire. Et aussi, peut-être, avec l'imaginaire, la position que, comme peintre, tu as investi comme jeune artiste, à un moment, une situation qui était très compliquée pour un jeune artiste qui entamait une carrière de peintre. J'ai toujours été frappé par le rapport que tu établissais entre la lecture qu'on pouvait faire de la situation de l'art en France, je sais pas moi, dans les années 80-90, et quelque chose qui revient un peu en arrière, qui consistait à se poser des questions en termes de philosophie de l'histoire, de fin de la peinture. Et il y a plusieurs fins de la peinture. Il y en a une qui est en 45, dans les années 50, avec tous les artistes qui s'arrêtent de travailler, comme Buraglio, ou Bernard Venet, ou Simon Antaille, mais qui reprennent l'ouvrage. Là, tu te retrouvais dans une autre situation de fin de la peinture, en quelque sorte, qui correspondait à une configuration historique totalement différente. Et je pense que c'est une chose que tu as traversé avec des lectures. Et ce serait peut-être intéressant que tu puisses revenir sur ces lectures-là.
Bah, oui, puisque tu parles de la fin de la peinture, on pourrait même parler de la fin de l'art, mais bon, j'ai été très marqué par la lecture d'un philosophe allemand qui était Hegel, et son esthétique, et sa raison dans l'histoire. Et mais bon, je lis. Après, je prétends pas du tout l'avoir compris, parce que je suis en plus pas germaniste, et je pense qu'à la limite, il faudrait pouvoir le lire en allemand. Enfin bon, peu importe. Ce qui m'avait intéressé, c'est que finalement, je suis arrivé à Hegel par un écrivain qui s'appelait Jean-Patrick Manchette. Et qui, dans ses chroniques, les chroniques qu'il tenait de je ne sais plus quel journal, faisait souvent référence, avait un côté quelque chose de très hegelien dans la manière dont il envisageait les périodes et le fait, de l'esprit du temps. Ou des choses qui sont possibles ou à un moment donné qui ne sont plus possibles. Et c'est pour ça qu'il avait toute une théorie comme quoi finalement dans la littérature aujourd'hui la seule chose viable était le roman policier. Parce que ça lui semblait être la seule possibilité pertinente de restituer l'esprit et la réalité de l'époque dans laquelle on était. Bon, lui, de son vivant, c'était les années 60, 70, 80. Et il avait toute une forme d'approche qui m'avait beaucoup touché, parce que moi-même, étant peintre, dans une époque où c'est vrai, la peinture est morte. C'est ça la question qui se pose à un moment donné, c'est comment faire de la peinture après la mort de la peinture. Et donc, il y a un auteur qui en a parlé également, c'est Milan Kundera, qui dit, je ne sais plus, c'est un peu loin tout ça, mais d'un coup ça me revient dans un de ses livres où il évoque, il parle d'une horloge, je crois, il dit l'horloge de la peinture s'est arrêtée. C'est-à-dire que globalement, il peut y avoir encore des peintres aujourd'hui, il peut y avoir voilà, des gens qui font des tableaux, tout ça, mais globalement, il ne se passera plus rien d'important dans ce domaine-là. Et ça, c'était la vision de Manchette également, et c'est assez hegélien, c'est-à-dire à un moment donné, l'esprit est passé, il n'est plus là. Voilà. Et l'art qui était censé, à un moment donné, et la peinture a eu son époque, a eu sa gloire, son heure de gloire, même ses siècles de gloire, pardon. Je parle avec des formules, mais bon, c'est une façon de... Voilà, et ça m'intéressait presque par masochisme aussi, d'une certaine façon. Masochisme intellectuel, je ne sais pas, c'est-à-dire finalement de se dire, tiens, voilà, moi, je pratique un art qui n'est, d'une certaine façon... et dont le temps est passé, mais en même temps son temps est passé, mais il est là, moi j'ai cette pratique, j'ai cette peinture que je poursuis, je ne suis pas le seul, voilà. Non. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, voilà.
Si, tout à fait. Mais alors, sans évidemment du tout relativiser ni mésestimer les défis, les difficultés qu'il y avait à faire de la peinture après les nouveaux réalistes, après Support Surface, qui se voyait très clairement comme le dernier mouvement possible. Hein. Donc, c'était évidemment très compliqué d'arriver après, mais... Cette réflexion sur la peinture comme étant finie et le fait de passer à une autre époque, on peut même dire que c'est venu très tôt à l'esprit des peintres. Moi, j'ai en tête une phrase de Fernand Léger qui dit que, avec le cinéma qui vient d'arriver, c'est fini la peinture. Il n'y a que finalement deux tailles qui arrivent à résister dans un musée avec ces tableaux. Tous les autres, finalement, ne peuvent plus faire grand-chose avec le cinéma qui est en train de se développer. Il parlait même du cinéma muet. Mmh. Bon. Donc ça, c'est effectivement un vrai défi. Alors, si je le cite, c'est peut-être pour qu'on puisse passer aussi au cinéma, non pas pour faire simplement regarder, tiens, il y a la littérature chez Marc Desgrandchamps, et puis à côté, il y a le cinéma. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que tout ça, j'ai l'impression que ça communique avec la littérature, le cinéma, peut-être aussi la musique. C'est-à-dire que j'aurais tendance à ne pas les voir chez toi comme des registres séparés. Ils forment un imaginaire esthétique, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, avec des communications. Ça ne correspond pas à des registres séparés, mais peut-être que je me trompe.
Non, mais tu as entièrement raison, dans le sens où tout ça est très associé, très s'interpénètre, c'est sûr. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Léger, moi j'ai toujours présent à l'esprit cette anecdote où on dit que Léger et Marcel Duchamp, c'est avant la guerre de 14, vont à un salon de l'aéronautique, et Duchamp montre une hélice d'avion à Léger et lui dit « T'as vu ça? Est-ce que tu peux faire mieux? Tu vois, c'est fini la peinture. » Mais c'est d'une certaine façon, c'est pas idiot. Après, c'est même plutôt drôle, c'est même bien dit. C'est d'ailleurs une anecdote très piquante. Après, sur les associations au sein de la peinture, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses cloisonnées. Le cinéma, l'écriture, littérature, tout ça sont des choses qui, à mon avis, dans la manière dont je pratique dans mon atelier la peinture, ce sont des choses qui, à la fois, sont présentes, peuvent être absentes. C'est-à-dire, ça va, ça vient, c'est fluctuant. Mais en même temps, il y a une espèce de substrat qui fait que ça peut surgir, apparaître à un moment donné, disparaître, reparaître. Il y a des moments de conscience, il y a des moments d'inconscience. Enfin, tout ça est effectivement extrêmement mêlé.
Alors, pour continuer sur cette question des citations qui partent d'un livre et qui peuvent se retrouver dans les œuvres, qu'il s'agisse de peinture ou de collage, la question de la forme même de l'écriture me semble importante. C'est-à-dire qu'il y a, un aspect, il y a un aspect découpe, d'un point de vue formel, hein, purement formel, qui me semble important. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette technique précisément de la découpe et de l'incrustation ?
Oui, en fait, c'est quand. Alors, c'est pas pour tous les livres, hein, ouais. Mais. Oui, souvent, quand je lis un livre, si, bon, déjà, j'annote beaucoup, je souligne. Et puis, à un moment donné, il peut y avoir effectivement une phrase, et là, je photocopie, en fait. Et c'est à ce moment-là que je découpe. Mais après, je ne m'en sers pas forcément immédiatement. C'est comme les images, en fait. J'accumule beaucoup d'images, et ben, j'accumule beaucoup de fragments de texte. Il m'arrive d'ailleurs, et d'ailleurs, je ne tiens pas à me souvenir. Forcément, à retenir de quel auteur il s'agit. Justement, il m'arrive d'oublier, d'ailleurs, de savoir d'où vient cette phrase, je ne sais pas. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'elle porte en elle et sa, son potentiel, justement. Voilà. Et donc, j'en découpe régulièrement. Et j'en ai, bah oui, j'en ai de plein dans des. Enfin, je sais pas, c'est stocké. Non, j'en ai pas non plus des millions. Mais il y a une forme d'accumulation, comme ça. Accumulation de phrases, comme il y a des accumulations d'images. Et puis, de temps en temps, je regarde dedans. Et puis, en fonction du jour aussi, et puis de l'humeur, parce que j'ai pour habitude d'écrire à peu près tous les jours, et souvent, il m'arrive de... Oui, enfin, j'écris pour noter, c'est un peu un journal de travail, et en même temps, de noter des choses avec des images, tout ça, et à ce moment-là, il m'arrive d'associer une image à une phrase.
Est-ce que tu as lu... Moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais... étudiant, je pense, quand il est sorti en poche, l'édition originale était trop luxueuse et trop chère pour l'étudiant que j'étais. C'était les mots dans la peinture de Michel Butor, qui m'avait fasciné, effectivement, tout cet univers des mots dans la peinture, la peinture ancienne, par exemple, jusqu'au XXe siècle. Est-ce que c'est un livre que tu as lu à ce moment-là, quand tu étais aussi étudiant, qu'aura pu compter ? Sachant que, alors, ce sont des questions en gigogne, hein, que Butor, c'est aussi quelqu'un qui a fréquenté des gens que tu as pu fréquenter. Je pense à Bernard Dufour, chez qui on trouve aussi des mots dans la peinture.
Oui,
est-ce
sûr.
Que tu as pu en parler avec Bernard Dufour ? Est-ce que ce livre de Butor a pu rentrer à un moment ou à un autre dans ta bibliothèque et tes lectures ? Ce sont des choses que j'aimerais savoir.
En fait, c'est un livre que j'ai lu. Alors, quand est-ce que je l'ai lu exactement ? Je pense que je l'ai lu quand j'avais, oui, dans les années 90. Je l'ai lu en poche. Et après, en édition poche. Et après, plus tard, je l'ai racheté, parce qu'à l'origine, je crois que c'est dans les Sentiers de la création de Skira, l'édition originale. Et je suis tombé un jour sur l'édition originale et je l'ai acheté. Oui, c'est un livre qui m'a évidemment beaucoup intéressé. Je pense qu'à l'époque, alors, il m'arrivait aussi d'écrire des phrases sur certains tableaux. Et donc, y avait à la fois ce qui me questionnait, c'était un peu la dualité entre la lettre, qui est un signe, qui finalement se présente et un signe pur et en même temps un vecteur de sens, c'est-à-dire c'est un signe qui représente, c'est-à-dire si le mot est et qui peut former une phrase finit par voilà, donc il y avait cette dualité entre présentation et représentation, c'est-à-dire représentation c'est effectivement le sens véhiculé par la phrase. Et l'apport, enfin, comment dire, oui, le plus qu'elle peut apporter à un moment donné à une peinture avec une phrase qui peut soit, qui ne va pas forcément éclairer, comment dire, le tableau en tant que tel, mais qui va venir quand même comme une forme de réminiscence. Par exemple, je me souviens d'une peinture que j'avais faite à la fin des années 90, et que à une époque où on était, enfin il y avait donc le conflit dans les Balkans, et notamment en 99, je me souviens, c'est le moment où j'ai peint ce tableau, la guerre du Kosovo et l'intervention de l'OTAN donc contre les forces serbes. Et je me souviens que j'avais repris sur un tableau qui était une représentation pas directement guerrière, mais quand même dans une évocation de cet ordre, une phrase que j'avais inscrite à la base de la toile et qui était « La bataille, c'est Anga ». Et je n'avais pas terminé. En fait, la phrase, c'est « La bataille s'est engagée ». Et moi, je l'avais coupé à « engagé », on n'avait pas le « g ». C'était juste « La bataille s'est engagée ». Bon. Et en fait, ça, « La bataille s'est engagée », c'est sur un, c'est une phrase que j'avais reprise sur un collage de Picasso qui date de 1912 et qui est en fait donc un papier collé. Et c'est le titre, alors bon, tout ça est un peu loin, donc je ne me rappelle plus exactement, mais c'est le titre d'un journal de l'époque, L'Intransigeant peut-être, qui dit « La bataille s'est engagée ». Donc du coup, j'avais quand même regardé, je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est, de quelle bataille il parle ?» Puisqu'on est en 1912, moi je voyais la guerre démarrer en 14, effectivement elle démarre en 14, mais il y a eu une guerre qui l'a précédée, qui était une guerre balkanique. Et effectivement, en 1912, il y avait des combats, et il y a eu... Et donc, Picasso, alors après, on a ironisé sur le fait que Picasso en faisait... la bataille s'est engagée, c'était par rapport à son ami Braque, et bon, voilà. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'avait intrigué, c'était cette bataille, voilà, 1912, tout ça, les Balkans, se dire aussi, bon, on sait que 14 avait démarré à Sarajevo, et là, fin du XXe siècle, et on est dans un conflit en Europe qui se situe dans cet espace géopolitique. Et j'avais vraiment l'impression d'un bégaiement de l'histoire. Donc, d'où, alors que je n'avais pas forcément imaginé au départ écrire ces lettres, cette phrase, à la base du tableau, quand j'ai commencé la peinture, ça, d'une certaine façon, s'est imposé comme quelque chose, une manière de relier cette peinture à ce sentiment, ce trouble qui était le mien par rapport à l'évolution, le développement d'une histoire contemporaine qui m'apparaissait quand même très, pour le moins, inquiétante.
Un grand merci à Marc Desgrandchamps et à François-René Martin d'avoir accepté de participer à cette séance d'entretien qui a permis de poursuivre dans le format de cette conversation une réflexion autour de la place de la lecture chez un artiste qui s'exprime principalement par le biais de la peinture. Donc, dans le prolongement de cet entretien, je voudrais également signaler la publication d'un article intitulé « Cavalcade » qui a été publié récemment dans le numéro 16 des Cahiers de Claude Simon. Donc un article dans lequel Marc Desgrandchamps raconte comment il en est venu à lire Claude Simon. Il évoque notamment sa découverte de la bataille de Pharsale. Donc il commente cette expérience de lecture et revient de manière très précise sur les souvenirs qu'il a de cette œuvre, donc en essayant de discerner en quoi elle a contribué à façonner ou à orienter dans telle ou telle direction sa propre perception des choses et du monde.